Direct ton jeu, la radio insolite. Direct ton jeu, comment dire, qui est une radio villeurbanaise qui navigue un peu partout dans notre belle Europe et même qui est diffusée dans le monde entier grâce à notre site internet, hein, directtonjeu.fr. Et là, direction tout droit, Ulysse. Imaginez, je suis ce matin avec la fille spirituelle d'Ulysse. Quel honneur tu me fais, Nathalie, de m'accueillir. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
on est d'accord, tu es bien la fille spirituelle d'Ulysse, hein, j'ai pas dit de bêtises.
Eh bien, c'est une façon de parler que je me sens assez, je me reconnais assez là-dedans, dans mes choix de par rapport à mon travail, par rapport à mes activités.
Surtout que si je veux pas dévoiler, comment dire, ton intimité, je crois que tu es grec. Tu as une enfance grecque.
Oui, à moitié, par mon père. D'ailleurs, mon nom est un nom grec.
Le nom, c'est Prochoris.
Prochoris, oui.
On prononce le S, d'accord.
Oui, on prononce le S.
Alors, tu es tellement marqué par cette enfance grecque et par le fait d'être fille spirituelle d'Ulysse que tu as décidé de nommer ta compagnie d'une manière assez originale, puisque là, attention, j'espère que vous connaissez bien votre calcul mental, les auditeurs. 3, 6, 9. Dis donc, ça a été dur à trouver. Hein.
Non, en fait, 3, 6, 9, c'est directement un hommage à Colette, puisque Colette a écrit un ouvrage qui s'appelle 3, 6, 9 et qui relate ses nombreux déménagements. Voilà, c'était déjà à l'époque, quand j'ai créé la compagnie, un hommage à Colette, qui m'accompagne depuis fort longtemps.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce métier? On fait une marche arrière très conséquente. C'est justement la rencontre avec Colette, quand tu as lu ses productions, c'est une pièce de théâtre
non,
que tu as
lu. Non, parce que Colette, je l'ai rencontrée très tardivement. En revanche, le métier d'artiste, il est né il y a longtemps, en classe en fait. J'avais une professeure de français qui nous a fait monter les Traquiniennes de Sophocle, diverses pièces. Et
tu as dit quoi? Les quoi?
Les Traquiniennes de Sophocle.
Je suis contente de faire leur connaissance.
Enfin, c'était osé. Et on faisait tout, on faisait les décors, les costumes, et on préparait toute une année les représentations de fin d'année. Et j'ai adoré. Et donc, j'ai tout de suite eu envie de goûter de la scène. Mais après, bon, j'ai eu d'autres vies qui ont fait que je m'en suis éloignée et que j'y suis revenue.
Oui, parce qu'au départ, si j'ai bien compris, tu t'es lancée dans le conte.
Non, c'est l'inverse en fait.
Ah bon.
Le conte est arrivé plus tard. Le conte est arrivé plus tard et un peu aussi par hasard, comme les rencontres. Hein. C'est souvent le hasard et la vie fait bien les choses.
Alors, question toute bête, ton spectacle qui commence demain.
Oui,
déjà, ça arrive. Hein. Là, tu vas plus pouvoir reculer. Hein.
Non.
J'espère que tu vas bien dormir cette nuit et que tu vas pouvoir te préparer comme il le faut pour demain. Mais pourquoi Colette? Parce que bon, c'est une grande dame. Mais pourquoi elle?
Eh bien, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré Colette, on peut dire ça comme ça, assez tardivement. Et je suis tombée dans Colette comme on tombe amoureux. Et je pourrais dire, il y a un avant et un après. Et depuis que j'ai rencontré Colette, elle m'accompagne. Et j'ai commencé par la Vagabonde. C'est le premier roman de Colette que j'ai lu. Et après, ça m'a tellement plu que j'ai dévoré tout ce qui me tombait sous la main. Et comme ça, au fil de mes lectures, pendant des mois, j'ai tout lu dans le désordre, vraiment, voilà, dans le désordre. Et au fil de mes lectures, il y a plusieurs... j'ai été assez surprise d'abord par le fait qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne voulait pas écrire. Et pourtant, elle a passé sa vie à écrire. Et puis, en fond, alors qu'on parle beaucoup de Sido, sa mère, beaucoup, Sido qui est devenu un grand personnage de la littérature, son père est plus en retrait. Et en fait, je le voyais partout. Et ça m'a intriguée. Donc, j'ai tiré le fil. Et puis, j'ai eu envie de faire passer cette passion que j'ai de Colette depuis une scène de théâtre. avec ce que je sais faire, ce que j'essaye de faire depuis quelques décennies. Et c'est comme ça que c'est né, un peu malgré moi, j'avais envie de transmettre ça. D'ailleurs, il s'agit de transmission aussi dans ce spectacle, puisque il s'agit du lien de Colette à l'écriture à travers la figure de son père le capitaine Colette, qui voulait écrire et qui n'a jamais écrit, ou si peu. Ça parle de quoi on hérite, qu'est-ce qu'on en fait? À un moment donné, Colette dit, je ne cesserai d'épeler en moi ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Et ça me touche beaucoup. Et je trouve que ça parle à tout le monde. Quand elle dit aussi que, après la mort de son père, d'abord elle a mis, alors c'est un peu dans le désordre ce que je dis, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Colette, c'est son patronyme. C'est
Oui,
pas un
exact.
prénom. C'est son patronyme. Son père s'appelait Jules Joseph Colette. Et on peut dire, comme on dit des gens, vous êtes le fils ou la fille d'eux. Là, on peut dire que Colette est devenue le père d'eux. Il est devenu célèbre par sa fille. Et voilà, c'est ce lien à son père qui m'a. Et comment, sans l'avoir su, il a transmis quelque chose de l'écriture, de l'amour des mots à sa fille.
Oui, parce que si je dis pas de bêtises, elle s'appelait Sidonie Gabrielle Colette.
Voilà,
Elle.
exactement.
D'accord. C'était une femme qui était déjà très engagée. À l'époque, elle n'est pas passée inaperçue.
Non, je dirais plutôt que très engagée, je dirais très, très en avance. C'était une femme libre, elle a vécu comme elle a voulu. Et pour ça aussi, c'est assez admirable. Et puis, elle a, effectivement, quand je disais tout à l'heure qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle ne voulait pas écrire, elle a passé sa vie à écrire, mais elle a fait aussi bien d'autres choses. Elle a été mime, elle a été comédienne, elle a été journaliste. Ça, beaucoup, on ne sait pas non plus. Journaliste, elle a été chroniqueuse judiciaire. Quand on sait qu'elle a couvert les grands procès de l'époque, par exemple la bande à Bonneau, le procès Landru, enfin, c'est absolument incroyable. Et puis, à 50 ans, elle a ouvert un salon de beauté. Mais en même temps, elle continuait à écrire. Et c'était. Elle pouvait pas s'en. Enfin, c'est sa vie. En fait, elle ne pouvait pas reculer devant ce besoin d'écrire.
C'est pour ça que le spectacle que tu présentes demain, tous les vendredis et samedis, s'appelle Colette, l'incorrigible. Alors j'aime bien l'incorrigible, trois petits points, besoin d'écrire.
Oui,
J'aime bien les trois petits points.
parce que à l'incorrigible, c'est aussi lié à Colette. Colette, il y a quelque chose de facétieux, oui, de facétieux et de. Elle est incorrigible, Colette. On peut pas la saisir, en fait. Elle est là où on ne l'attend pas. Et puis elle est, quand je disais que c'est vraiment une avant-gardiste, elle était écologiste avant l'heure, protectrice des animaux. Et en fait, ce qui me plaît, c'est de dépoussiérer un peu tout ça. Hier, j'ai flâné devant un théâtre où il y avait un groupe de lycéens à qui j'ai donc distribué des flyers et bah, ils connaissaient pas Colette. Et je leur ai demandé, mais vous êtes dans quelle classe? Et ils m'ont dit en première. Je dis, ah, bah, votre professeur n'a pas choisi d'étudier Colette puisqu'elle est au programme. Et ils m'ont demandé, mais c'est qui Colette? Ah, alors, question piège ou pas? Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais au fond, j'ai parlé de ce don qu'elle avait d'écrire et de nommer les petites choses de la vie, les choses simples, et avec une précision d'orfèvre et avec des mots choisis qui nous font dire, ah, mais oui, mais c'est exactement ça. Et avec des images, par exemple, quand elle parle des pensées, les fleurs, les pensées qui ont la barbe carrée d'Henri VIII ou que Sido relève les roses par le menton, tout de suite on voit la scène, on voit, ça nous touche. Elle a un lien à la nature qui est extrêmement fort et son maître mot qu'elle attribue à Sido, sa mère, c'était Regarde. Et je trouve que c'est une écriture très contemporaine, très riche aussi. Enfin,
C'était aussi
moi,
du
je trouve que
c'était du
pardon.
parler vrai. Ça, c'est ce qui m'a un peu surpris. J'ai
Oui,
regardé un tout petit peu
oui.
comment est son parcours.
Mm-mm.
C'est authentique, c'est du sincère.
Oui. Et puis, alors, est-ce que c'est de l'autofiction? Est-ce que, alors, en fait, c'est très mouvant. C'est de l'autofiction. Oui, ça peut être de l'autofiction. Elle parle beaucoup de son enfance. Hein. C'est son lieu privilégié autour de sa maison natale, qui est devenue aussi un monument de la littérature, la maison de Claudine. Ça, c'est un titre formidable. Enfin, il y a plein de nouvelles dedans où elle parle de ses parents, de ses frères. Ça parle à tout le monde, c'est ça qui est. Et ça parle surtout à tous les âges. Ça parle à tous les âges. Je me souviens, j'avais rencontré, parce que ce spectacle a eu plusieurs vies, dans sa première vie, j'avais rencontré Claire Etcherelli, qui avait écrit un très joli papier et qui parlait de ce labourage incessant qu'est l'écriture. Et elle me disait, Colette, elle l'avait connue son plus jeune âge, et elle disait, mais à chaque fois que je la relis, que je la lis, je l'ai lue à 20 ans, je l'ai lue à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à chaque fois, ça me parle différemment. Et ça, c'est formidable. C'est une des rares autrices que moi, je relis avec plaisir et j'y découvre toujours quelque chose de nouveau.
Ah, c'est la magie de l'âge, comme on dit. Alors,
Oui.
juste ce qui est important, comment est-ce qu'on ne sait pas, moi je ne le savais pas, je reconnais. D'une part, elle était femme de lettres, actrice, journaliste. Elle a été aussi la deuxième femme à être élue membre de l'Académie Goncourt, et elle en est devenue la présidente. Et surtout, elle
Oui.
était la première femme de France à recevoir des funérailles nationales. Ce qui veut dire
Oui.
que ça représentait quand même une personne sacrément importante.
Oui.
Elle est décédée d'ailleurs le 3 août 1954. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on fête son 150e anniversaire de
Oui.
naissance cette année.
Oui, c'est ça. Oui. Et l'année prochaine, le 70e anniversaire de sa disparition.
Voilà, donc c'est, je veux dire, ça n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait une parole qui portait et qui était assez symbolique.
Oui. Et là, en plus, puisqu'on est dans les anniversaires, 1923, c'est aussi le centenaire du blé en herbe, un de ces titres fameux. Et le blé en herbe, donc en 1923, et pour la première fois, elle signe de son nom sous lequel on la connaît, Colette. Avant, elle signait Colette Willy. Et donc, elle a 50 ans en 1923, elle a attendu d'avoir 50 ans pour signé de son vrai nom, enfin de son nom de plume, je sais pas, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup parce qu'elle dit aussi que il faut du temps à l'absent, puisque quand elle parle de son père, pour prendre sa vraie forme en nous, et que les magnifiques textes sur son père, sur Sido, elle les a écrits bien après leur mort à chacun. Donc, il y a quelque chose qui a mûri longuement. Et ça,
D'accord.
c'est
Tu
beau.
joues à partir de demain, 19h30, à la Folie Théâtre.
Oui.
Alors, la pièce s'appelle L'incorrigible, besoin d'écrire. Mais elle a changé de nom, en fait. Parce qu'avant,
Oui.
c'était J'ai été mordu par une presse à gaufrer.
Oui, j'ai été mordue par une presse à gaufrer. Oui, en fait, pour comprendre le titre, il fallait voir le spectacle. Parce que
Bon.
la presse à gaufrer, c'est un petit objet qui trônait sur le bureau de son père et qui excitait toutes ses convoitises. Et la presse à gaufrer, bon, souvent les gens savent pas. On n'utilise plus beaucoup, sauf dans les papiers officiels. C'est un objet qui mord la feuille blanche et qui met un cachet en relief. Il n'y a pas d'encre,
D'accord.
donc c'est en relief. Et donc, il y avait la presse à gaufrer de son père, qui signait de J.J. Colette. Et voilà, effectivement, c'est dans le spectacle. Et bon, pour des raisons un peu évidentes, c'était quand même mieux de parler de Colette
Oui, non, tout à fait.
que de la presse à gaufrer, parce qu'on me disait, mais c'est quoi, c'est pour friser les cheveux? Je dis, non, non, pas du tout.
Alors, tu entames un parcours assez conséquent puisque tu vas jouer donc à la Folie Théâtre à partir de demain jusqu'au 2 mars. Mais
Oui.
j'allais dire uniquement le vendredi et le samedi. Ah.
Oui.
Ah.
Mais c'est bien, en même temps, c'est un long parcours, un long chemin avec Colette. Pendant 3 mois, j'en suis vraiment ravie. Et puis j'espère que les gens vont découvrir ou redécouvrir Colette, parce que beaucoup de gens la connaissent, enfin tout le monde connaît son nom au moins, mais qui l'a vraiment lu?
Exact, tout à fait.
Et en plus, enfin, moi j'ai fait un tissage, je dirais, c'est un montage de texte avec un peu de micro-écriture entre les différents textes pour que ce soit plus fluide. Et puis des petits textes à la manière d'eux. Et il y a des textes qui sont issus de textes connus comme La Maison de Claudine, mais d'autres dans des textes beaucoup moins connus, Paysages et portraits, Le Képi. C'est vrai que ça s'est fait au fil du temps, ce montage. Et puis il a bougé, parce que comme le spectacle existe, il a existé sous plusieurs formes, à chaque fois il bouge. Et il y a des choses qui se repositionnent un peu différemment.
D'accord,
Et
donc
puis depuis que je suis devenue conteuse, en plus, il y a des choses que je me permets, que je ne me permettais pas avant. Et ça, je trouve ça donne beaucoup plus de liberté. Et je trouve que ça rend les choses beaucoup plus vivantes aussi. En fait, j'ai l'impression que ce spectacle, il est rentré dans mon répertoire de conteuse et que il peut sortir, ressortir, avoir envie de ressortir n'importe quand, et à chaque fois avec quelque chose qui a bougé malgré moi, à mon insu. Et ça, je trouve ça prouve qu'on est vraiment dans le spectacle vivant.
Exactement. Et puis, tu n'as pas de problème avec ta metteuse en scène.
Non, enfin,
C'est
il y a
normal,
eu, non,
c'est toi.
il y a eu. Oui, enfin, c'est moi, enfin, c'est-à-dire que c'était moi au départ, puis après, ça a été remis en scène par une metteuse en scène avec laquelle je travaillais sur un autre spectacle, Marie-Paul Rameau. Et puis, là, ça fait longtemps qu'on travaille plus ensemble, donc le spectacle a été remanié à nouveau. Et puis, je travaille avec une comédienne qui a été mon regard extérieur sur cette reprise, Christine Cullerier, qui a joué d'ailleurs à la Folie Théâtre l'année dernière. Et on partage aussi l'amour de Colette et des mots. Et puis Colette, c'est extrêmement savoureux. J'avoue que c'est un plaisir de mâchouiller ces mots. C'est incroyable. Et ça, à chaque fois qu'on prononce les mots de Colette, c'est des textes qu'on a envie de lire à haute voix. Parce que ça se déploie, il y a quelque chose qui se déploie, comme, je sais pas moi, des champignons secs qu'on plonge dans l'eau, puis ah, oh, ça se déploie, ça prend sa vraie forme.
C'est un vrai régal que de t'écouter, de découvrir justement cet artiste qui est Colette, et puis surtout comment dire, de se dire qu'on peut passer un très bon moment à venir te voir. C'est à la Folie
J'espère.
Théâtre, je rappelle, la Folie Théâtre, c'est rue de la Folie Méricourt, dans le 11e arrondissement à Paris. Pour réserver, je suppose qu'on va sur le site internet du théâtre.
Oui, il y a aussi un téléphone qui est le 01 43 55 14 80. Et je joue dans la Petite Folie, qui est une des deux salles. Et en fait, quand j'ai su que j'allais jouer là, je me suis dit, ah, ça aurait plu à Colette, ça. La Folie Théâtre, la Petite Folie, la rue de la Folie Méricourt. Tout est fou.
C'est
Et
bien.
j'adore.
Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous présenter ton spectacle. Et puis, comme on dit dans le domaine du théâtre, je crois qu'on dit toi-toi, logiquement.
Toi, toi, oui. Et je
Merci.
prends.
Merci à toi.